Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde. On est avec vous du lundi au vendredi jusqu'à midi sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiphaine de Roquigny, Clémence Alezard, Juliette Gadeau, réalisée par Charlotte Roux et mise en onde ce matin par Jean-Frédéric. Et pour cette première semaine de cette nouvelle année 2017 que je vous souhaite absolument excellente, chers auditeurs, nous allons nous pencher sur l'ordre mondial qui pourrait se construire, se reconstruire au cours des prochains mois. Brexit, élection de Donald Trump, retour en force de la Russie, impuissance des Nations Unies. 2016 aura marqué une année chargée en secousses sismiques et semble avoir constitué peut-être un point de basculement dans l'ordre international. On va essayer d'imaginer ce que ces changements pourraient apporter au monde durant l'année qui s'ouvre, quelles en seront les conséquences pour l'Europe, pour la pour l'Asie ou encore pour l'Afrique. 2017 vers un nouvel ordre international et ce matin vers la fin peut-être de l'ordre libéral post-Seconde Guerre mondiale.
Je viens de recevoir l'appel de la secrétaire Clinton. Elle nous félicite, nous tous, pour notre victoire. Voici le rêve qui se lève avec le soleil d'une Grande-Bretagne indépendante. Si les sondages sont exacts, ce sera une victoire pour les gens authentiques. Une victoire pour les gens honnêtes.
Trois documents ont été signés. Un cessez-le-feu entre gouvernement syrien et rebelles, une série de mesures permettant le contrôle de ce cessez-le-feu, et enfin une déclaration d'intention des parties pour démarrer des négociations de paix.
Il y a quelques jours, Vladimir Poutine, après 5 années de conflit qui ont fait plus de 300 000 morts et des millions de réfugiés, annonçait l'arrêt des frappes russes sur l'ensemble du territoire syrien et un cessez-le-feu entre le régime et ce qu'il reste de son opposition. Des discussions devraient d'ailleurs bientôt s'engager du côté d'Astana pour tenter de trouver un accord de transition politique. La capitale kazakh détrônant ainsi d'autres centres diplomatiques plus traditionnels comme Genève ou New York. Cette victoire diplomatique du chef du Kremlin signe le grand retour de la Russie sur la scène diplomatique, mais aussi l'impuissance des Nations Unies à réunir les conditions du dialogue et de la paix. Un peu plus tôt dans l'année, c'était le 23 juin dernier, Nigel Farage, ancien chef du UKIP et militant de longue date pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne, exultait le soir de la victoire du Leave, les Britanniques ayant voté à presque 52% pour une sortie de l'Union Européenne. Un événement qui laisse craindre le scénario d'un délitement progressif de l'Union. Encore troisième élément, cette victoire inattendue de Donald Trump, le candidat républicain que pratiquement tous les observateurs voyaient incapable de l'emporter face à Hillary Clinton. Pourtant, c'est bien lui qui remplacera Barack Obama dans quelques jours à la Maison Blanche et qui pourra alors marquer une nouvelle ère pour les États-Unis, une ère caractérisée par le repli aussi bien sur le plan économique mais aussi quant à sa disposition à assurer, à garantir la sécurité de ses alliés. On va revenir sur les grandes évolutions en matière de relations internationales de ces derniers mois. Il nous faudra évidemment évoquer la crise syrienne mais aussi les tensions exacerbées entre les États-Unis et la Russie, l'impuissance des Nations Unies, la légitimité de l'OTAN, la crise migratoire et bien d'autres sujets encore. Pour les évoquer, on a invité ce matin deux personnes. D'abord Bertrand Badi, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, enseignant-chercheur au CERI, Centre d'études et de recherche internationale et parrain de cette émission. Je vous remercie une fois encore d'être avec nous, auteur de nombreux ouvrages. Je rappelle juste peut-être « Nous ne sommes plus seuls au monde » et aussi « Qui gouverne le monde, l'état du monde 2017 ?» C'est d'actualité. Et puis en face de vous, Jacques Sapir, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes économiste, directeur d'études à l'EHESS, un spécialiste de l'économie russe et des questions stratégiques, auteur, vous, de « Souveraineté, démocratie, laïcité » qui est paru chez Émile Chalon, mais aussi « L'euro contre la France »,« L'euro contre l'Europe » qui était paru il y a quelques semaines aux éditions du Cerf. D'abord, une première question un peu générale pour l'un et pour l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que 2016, en effet, a marqué peut-être un tournant et qu'on entre désormais dans une nouvelle ère, un nouvel ordre international? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui vous semble être sur le point de disparaître? Bertrand Badi.
Alors, il faut être prudent parce que, vous savez, c'est souvent qu'on emploie cette formule. Nous sommes à un tournant, il y a une rupture profonde. On a toujours tendance à avoir des ruptures un peu partout. Je dirais que les composantes de l'ordre international auquel vous vous référez se sont mises en place il y a déjà un bon bout de temps. Hein. C'est-à-dire que nous évoquons là les effets d'une mondialisation qui quand même est installée depuis plusieurs décennies. Nous évoquons aussi les effets en différé de 1989, de la chute du mur et de la disparition de la bipolarité. Nous évoquons les effets, notamment à travers les conflits en Syrie et en Afrique, d'une décolonisation qui a échoué. Ça, c'est une très longue histoire. Simplement, peut-être prenons-nous conscience, enfin et insuffisamment, des problèmes du Sud qui ne sont pas seulement la périphérie du système international, mais qui sont une composante intégrale de notre monde, de notre système international. Tout ça, ce sont des paramètres que nous connaissions depuis un bon bout de temps. Il y a eu, simplement cette année, et simplement et peut-être un peu naïf comme formulation, des révélations. C'est-à-dire toutes ces forces qui agissaient depuis des années se sont révélées à travers les trois photographies que vous avez mentionnées. Je crois que vous avez très justement choisi ce qui est pertinent en la matière. Le Brexit. Le Brexit qui est effectivement un phénomène tout à fait nouveau. C'est extrêmement rare qu'on sorte d'une organisation régionale. Et c'est remarquable qu'on en sorte, non pas tellement en critique directe de celle-ci, mais à partir d'arguments identitaristes, de refus de la mondialisation. C'est pas tant l'Europe qui était en procès dans le Brexit que une certaine image de la mondialisation, une certaine rétraction nationaliste. Alors, le mot est lâché. Il y a un néo-nationalisme qui vient s'affirmer un peu partout, à travers Trump, à travers Poutine, à travers Erdogan, ce que j'ai appelé dans cette émission même l'Erdogan. Erdogano-Trumpo-Poutinisme. Oui. Et ceci, je crois, effectivement fait sens. Mais c'est le résultat d'une très, très longue histoire. L'autre grande révélation, c'est, et peut-être est-ce pour moi l'événement le plus important, la chute d'Alep, qui montre que l'on est dans un monde où la conflictualité est tout à fait devenu hors de portée des puissances occidentales.
Et Alep, le symbole de l'apprentissage d'une certaine impuissance des États, disiez-vous.
Tout à fait. Mais ça, c'est quelque chose de considérable. C'est-à-dire, le gendarme du monde a perdu ses galons. Et ça, c'est un événement majeur.
Jacques Sapir, sur cette idée d'un nouvel ordre international, Bertrand Badi évoquait 1989, la fin de la bipolarité. C'est vrai que 89, c'était le grand triomphe, d'une certaine manière, de l'ordre libéral post-Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous diriez qu'on a désormais entamé le déclin de cet ordre libéral d'après-guerre?
Alors, je vois les choses de manière un petit peu différente. En réalité, je relisais, en venant jusqu'à la maison de la radio, je relisais un livre que j'ai publié en 2009, qui s'appelait « Le nouveau 21e siècle ». Et où je disais, et je me rends compte que je n'aurais quasiment rien à changer aux lignes que j'avais écrites à ce moment-là, je disais, voilà, le monde tel qu'on l'a connu après 1945 est mort, en fait, avec la dissolution de l'Union soviétique, non pas en 89, mais fin 1991, début 1992. Et plusieurs mondes se sont affrontés dans cette espèce d'intersiècle qui va, grosso modo, de 1992 au milieu des années 2000. Les États-Unis auraient pu, à ce moment-là, construire ce que l'on pensait être le siècle américain. Ils auraient pu le construire s'ils avaient su gérer leur puissance. Ils ne l'ont pas su. Et évidemment, une partie de cette non-gestion de cette puissance, ça a été l'hubris américaine dans le libéralisme, ça a été l'ingérence flagrante des États-Unis dans la vie politique russe de 1992 à 1998, qui d'ailleurs s'est soldée par la crise russe de 1998. Et c'est là, en réalité, le début du refoulement des États-Unis. C'est le début, d'une certaine manière, de la reprise en main de la Russie, et de la Russie qui dit donc, on ne veut pas devenir des Américains, on va devenir autre chose, et donc partez. Bon, il y a eu aussi l'intervention en Irak, 2003. Il y a eu avant l'échec de la guerre du Kosovo. Et là encore, c'est très intéressant. La guerre du Kosovo, au départ, si vous voulez, les problèmes du Kosovo, avant même que ça ne devienne une guerre, on pouvait les analyser dans le cadre qui avait servi à analyser d'une certaine manière la première guerre du Golfe, celle qui avait été menée contre Saddam Hussein pour le Koweït en 1991. On avait dit, mais pourquoi est-ce que les grandes puissances ne pourraient s'accorder là-dessus, certaines participant, d'autres laissant faire. Mais là, on a bien vu que les États-Unis ont pris, et pas seulement qu'eux d'ailleurs, une série de pays européens ont été entraînés derrière les États-Unis, ont pris des positions extrémistes, ce qui a provoqué une réaction à la fois de la Chine, mais aussi de la Russie. Et d'une certaine manière, l'intervention des parachutistes russes à Pristina, en 1999, qui s'est faite sur l'ordre de Yevgeny Primakov, qui était à l'époque l'homme fort en Russie, signale tout autant que les événements de Syrie, le fait que une certaine limite est mise aux pays occidentaux. Donc, si vous voulez, je vois beaucoup plus là l'échec à la fois de la construction de ce monde américain, de ce siècle américain, et évidemment le retour massif des nations sur l'échiquier politique.
Je vais vous laisser peut-être revenir, Bertrand Badie, sur ce parallèle entre la Syrie et le Kosovo. C'est vrai qu'il est souvent réalisé. Mais il y a une chose qui me frappe, c'est qu'en vous entendant, vous n'avez pas du tout évoqué la crise de 2008, la crise des subprimes, comme peut-être rupture. C'est vrai qu'on pourrait se demander finalement pourquoi on a eu autant de surprises. Parce que de fait, le Brexit, l'élection de Donald Trump, c'est d'une certaine manière des surprises. En tout cas, du point de vue médiatique, ça a été vu comme tel. On pourrait se demander pourquoi on a eu autant de surprises électorales. D'une certaine manière, la victoire d'un François Fillon aussi était aussi une surprise. Anne Applebaum, qu'on aura tout à l'heure, dit qu'en réalité, l'électorat réagit avec un retard par rapport à la crise de 2008. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'a pas tiré les leçons de cette crise économique, on n'a pas pris la mesure des enjeux, on a accepté un peu forcé de renflouer les banques pour éviter le désastre financier, et aujourd'hui, on aurait un contre-coup, d'une certaine manière, un contre-coup électoral de tout cela. Jacques Sapir.
Non, ou plus exactement, bien sûr, la crise de 2008 a joué, mais elle a été, d'une certaine manière, précédée par d'autres crises. Il y a eu le scandale Exxon, il y a eu l'éclatement de la bulle Internet, il y a eu avant la crise russe et même avant la crise asiatique. Donc, en réalité, nous sommes dans un continuum de crises économiques et le fait, et là c'est important, que les États-Unis et les autres pays occidentaux n'ont pas su développer les instruments et développer des instruments globaux, c'est-à-dire incluant d'autres pays comme la Chine, comme la Russie. Ces instruments, normalement, ils existaient. En 1945, c'était le Fonds monétaire international qui devait être chargé de ça. Or, le Fonds monétaire international, son grand échec, c'est la crise de 1998, pas seulement en Russie, mais aussi en Malaisie, mais aussi en Indonésie, mais aussi après au Brésil, en Argentine. Donc, c'est bien l'échec des institutions internationales dominées par les États-Unis qui va évidemment engendrer une situation de crise continue, situation de crise continue qui, bien entendu, provoque des réactions importantes dans les électorats.
Bertrand Badie, puis ensuite, je voudrais qu'on revienne à la question syrienne. Bertrand Badie.
Oui, moi, je rejoins en grande partie Jacques Sapir, et notamment sur cette idée de ratage. Moi, ce qui me frappe dans la chronique des relations internationales depuis 1945, c'est cette accumulation de ratage. J'évoquais tout à l'heure le ratage de la décolonisation. C'est-à-dire, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental. Les Nations Unies ont été créées en 1945 par 51 États. Ils sont 193 maintenant. Qu'est-ce qui a changé dans les structures des Nations Unies, et comme le rappelait très justement Jacques Sapir, également du Fonds monétaire international. Il y a un conservatisme institutionnel qui, par rapport à la vitesse du temps, est tout à fait effrayant. Alors, c'est pas le seul ratage. Ce qui me frappe, moi, à partir de, vous dites 91, moi j'aurais tendance à dire 89 parce que, bon, enfin, on va pas faire de débat là-dessus. Mais ce qui me frappe depuis ce temps, c'est que, finalement, aucune alternative n'a été inventée. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Avec la fin de la bipolarité, s'effondre la confrontation idéologique, les clivages politiques et les débats politiques. C'est-à-dire qu'à partir de 1991, on ne débat plus sur la scène politique. Vous faisiez référence tout à l'heure à l'électorat. Bah, mettez-vous à la place d'un électorat auquel on n'offre rien. c'est-à-dire auxquels on offre des programmes qui se ressemblent et quand ils ne se ressemblent pas, qui ont une connotation plus protestataire que gouvernementale. Donc effectivement, on se trouve dans une situation d'impasse. Ça, c'est quand même un premier manque d'imagination politique dont nous payons très cher.
Et pourquoi ce manque de confrontation politique idéologique ?
Eh bien, d'abord, probablement, l'effet d'une illusion dans ces années 89-91, l'idée que si l'URSS s'effondrait, c'est en fait tout le socialisme et tout le modèle socialiste qui tombait en même temps, ce qui était un petit peu rapide, vous l'admettrez, et c'est là qu'est intervenu, ça avait commencé un tout petit peu avant, mais l'ambiance, c'était le fameux TINA, There is no alternative, c'est la fameuse phrase de Madame Thatcher. Et l'idée selon laquelle, finalement, si on voulait arriver au pouvoir, il fallait gérer un monde ultra-libéral. Et la social-démocratie est tombée massivement dans ce piège, c'est-à-dire que s'agisse de l'Allemagne, qu'il s'agisse de la Grande-Bretagne, qu'il s'agisse avec plus de retard, mais on le voit très bien maintenant, de la France, un ralliement de l'ancienne gauche à ce modèle ultralibéral dominant, sans construction de modèle nouveau à côté. Et puis l'autre manque d'imagination politique, et ça je crois que quelqu'un dont on parle plus beaucoup maintenant et hautement responsable, c'est Bill Clinton, c'est-à-dire ces deux mandats à la Maison-Blanche dans les années 90, où il s'agissait de construire un nouvel ordre mondial. Qu'est-ce qui a été fait ? Quel est l'élément probant de ce nouvel ordre mondial ? Il y avait des graines, il y avait des points de départ, il y avait le partenariat pour la paix, il y avait l'OSCE, il y avait tout un tas d'idées qui auraient pu non seulement remettre la nouvelle Russie dans le système international, mais j'insiste beaucoup là-dessus, le Sud. Pourquoi j'insiste tant sur le Sud ? Parce que 98% de la conflictualité aujourd'hui se passe dans le Sud. Et l'élément majeur qui n'est pas de notre année, mais qui est peut-être de notre passage d'un millénaire à un autre, c'est la mutation de la conflictualité. La guerre n'est plus une compétition de puissance, c'est une compétition de faiblesse. Et qu'est-ce que l'on a fait pour réagir à cela? Eh ben, on a dit, on va envoyer nos chars, nos canons, on va intervenir tous azimuts en Somalie, en Libye, en Irak, en Syrie, au Mali. Et puis, la France en est quand même à 50 interventions militaires en Afrique. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire dans un temps post-colonial. Tout cela montre qu'on avait au mieux la diplomatie de la rustine, du sparadrap, et au pire, celle effectivement d'un gendarme sans gendarmerie. Ben voilà, nous en payons le prix aujourd'hui.
Bon, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a eu des manquements. Voyons donc cette question de la Russie et cette question syrienne. Je le disais tout à l'heure, il y a une réunion qui va se tenir bientôt à Astana, donc au Kazakhstan, pas à Washington, pas à New York, pas à Genève, pas à Vienne, à Astana. Nouvelle preuve évidemment de l'impuissance occidentale, tout le monde l'a noté. Ça va être un enjeu majeur pour la Russie, parce que après avoir engrangé Jacques Sapir, crème, ses victoires diplomatiques en empêchant le dialogue et la paix, en façonnant à sa guise, c'est vrai, les contours de l'opposition syrienne, je mets des guillemets, qui va donc se présenter à la table des négociations, il va maintenant falloir obtenir un accord sur une solution politique en Syrie. Dans cette quête, Vladimir Poutine joue gros, il va se retrouver quand même exposé et exposé à l'échec. Il va falloir convertir les récentes victoires diplomatiques en capacité politique. Ça va être un enjeu, Jacques Sapir.
Oui, certainement. Certainement. Alors, je pense que Vladimir Poutine n'est pas si exposé que cela, pour deux raisons. Première raison, c'est qu'il n'est pas seul dans cette opération. Il va pouvoir s'appuyer sur les Iraniens aussi, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont en réalité une des puissances les plus importantes et les plus impliquées dans la guerre civile en Syrie. Bon, donc ça c'est un point important. Il va d'ailleurs pouvoir aussi s'appuyer, et ça c'est aussi un point très important, sur les très bonnes relations, ou en tous les cas les relations efficaces qui ont été renouées depuis 2 ans, un petit peu moins dans un certain nombre de cas, avec d'autres pays, l'Égypte en particulier. L'Égypte qui aujourd'hui revient vers la Russie, non pas contre les États-Unis, parce que l'Égypte a toujours besoin de l'argent américain, mais elle revient beaucoup d'un point de vue géostratégique vers la Russie, l'Arabie Saoudite. Et vous voyez, la réunion qui s'est tenue à Vienne, au début du mois de décembre, et qui a réuni les pays producteurs de pétrole, de l'OPEP, et les pays dits non-OPEP. une réunion extrêmement importante, puisque c'est à cette réunion qu'ont été décidés des plafonds de production. Et des plafonds de production importants. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite a réenchéri sur ces plafonds. Elle a dit qu'elle irait au-delà de ces plafonds. Quels sont les deux ministres qui ont présenté les résultats de cette conférence? Le ministre russe et le ministre saoudien. Et ça aussi, ça prouve que l'influence de la Russie au Moyen-Orient est très importante. Donc voilà, c'est un point qui me semble extrêmement important, c'est que Vladimir Poutine n'est pas seul, il va s'appuyer, il va bien entendu devoir transiger aussi avec des alliés, parce que des alliés, ça a aussi des exigences. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il peut toujours présenter la question de la Syrie comme une question périphérique. Mais il faut savoir que, et c'est un point important, et c'est un point que nous n'avons pas vu, que nous n'avons pas su voir en France, c'est que la Syrie, ça correspond, vu de Moscou, à l'immédiate frontière sud du monde soviétique et post-soviétique. Mmh. Et c'est l'une des raisons les plus importantes, je pense, dans l'intervention russe en Syrie, qui n'a pas été comprise en Europe en particulier.
Bertrand Badie, sur cette capacité de Vladimir Poutine à transformer ses victoires diplomatiques en capacités politiques, est-ce que vous êtes, comme Jacques Sapir, vous pensez qu'il va pouvoir le faire parce qu'il a justement des alliés, ou est-ce que vous pensez que ça sera plus difficile que ça? Et je rappelle quand même une chose peut-être, c'est que ce conflit syrien, alors aujourd'hui bien sûr ce sont des négociations diplomatiques, politiques, mais au départ c'est une crise économique et sociale, et qu'on peut se demander si finalement, quand bien même il y aurait un accord de transition politique, on peut se demander si, au niveau du terrain, tout cela va permettre de dépasser cette, faut-il l'appeler une révolution, je n'en sais rien, en tout cas cette révolte populaire, parce que à l'arrivée, il s'agit bien de ça. Avant que le conflit soit régionalisé, internationalisé, on a d'abord une colère économique et sociale, une colère sociale, Bertrand Badie.
Oui, moi je serais plus nuancé, plus dubitatif. Je suis tout à fait d'accord, et ça, ça a été un des traits majeurs de la diplomatie occidentale, on a sous-estimé les capacités politiques de la Russie, les capacités diplomatiques de la Russie. Et il y a notamment trois éléments très très importants. Premier élément, on a vu, à mesure qu'on s'amusait à gouverner le monde et à marginaliser la Russie se reconstituait dans un bloc eurasiatique extrêmement fort. L'organisation de la coopération de Shanghai, l'alliance, de fait, entre Moscou et Pékin, c'est quand même un grand événement. Si on compare à ce qui se passait pendant la guerre froide, c'est une mutation qu'ici, on a pratiquement pas vu venir. Et que l'on ne regarde pas, c'est moins important que le Vendée Globe, manifestement. Bon. Le deuxième élément, c'est que la Russie, contrairement aux pays occidentaux, a de très bonnes cartes dans son jeu moyen-oriental. Parce que, comme le rappelait Jacques Sapir, elle a de vrais alliés sur place. Alors, que sont les alliés des pays occidentaux? L'Arabie Saoudite et la Turquie qui devraient l'être. On sait très bien qu'on ne peut plus les baptiser de la sorte aujourd'hui. Et troisième élément, c'est que jusqu'à maintenant, la Russie a réussi à plaider l'idée que, effectivement, elle n'intervenait que dans sa périphérie. C'est-à-dire que l'intervention des pays occidentaux, c'est tous azimuts. Il se passe demain matin une crise aux îles Fidji et immédiatement, on va trouver une solution que l'on va imposer, si nécessaire, par la force sous chapitre 7. C'est pas du tout le cas de la Russie qui ne s'intéresse effectivement qu'à cette marche, comme tous les empires soignent leur marche. C'est un phénomène bien connu. Donc ça, c'est trois éléments forts qui viennent plaider en faveur de la capacité diplomatique de la Russie. Mais il reste que on s'est toujours interdit, tant en Occident que semble-t-il à Moscou, d'étudier ce qu'il y a derrière ces conflits. Il y a des causes très très profondes. Il y a des États, pas seulement la Syrie, mais ses voisins, c'est la même chose, qui s'effondrent. Des nations qui s'effondrent. Des sociétés qui ne fonctionnent plus. Il n'y a plus de contrat social. On est dans une situation, pour sortir les bons auteurs, pré-hobbesienne, d'état de nature. Et tout ceci ne se règle pas comme on pouvait le croire à un moment, c'est-à-dire que Bachar ne sera jamais le Ouzak ou le Gomulka de Monsieur Poutine, et le conflit et ce qui fait la complexité de ce conflit, ce sur quoi les Occidentaux se sont cassés le nez pendant des décennies et des décennies, une puissance qui voudra être
tutrice. Je ne sais pas jusqu'où Poutine jouera la carte du tuteur, risque d'avoir exactement les mêmes problèmes. D'autant que n'oubliez pas une chose, ce qui s'est joué à Alep, c'était pas la finale, c'était la demi-finale. La finale, elle se joue face à l'État islamique, face à Daesh, elle se joue à Mossoul ou à Raqqa, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire, tant que la principale hypothèque, il faut bien le dire, du conflit syrien et du conflit irakien ne sera pas levée, c'est-à-dire l'hypothèque islamiste, comme on dit ici, radicale, eh bien, personne ne pourra prétendre être en situation d'arbitre ou en tous les cas de pacificateur. Donc, effectivement, les ennuis commencent pour Poutine. L'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie, vous savez, généralement, c'est un symbole très fort dans l'histoire des relations internationales quand on commence à assassiner un ambassadeur. C'est que, effectivement, le pays est devenu cible. Les diplomates israéliens, à un moment, étaient les cibles. Les diplomates américains ont été des cibles. Il était un moment où les diplomates français ont été des cibles.
Et ça, c'est une nouveauté.
Et maintenant, ce sont des diplomates russes. Ouais. C'est quand même le signe que la girouette des relations internationales a changé de position.
Vers un nouvel ordre international, c'est notre question toute cette semaine. Est-ce que c'est la fin de l'ordre libéral post-Seconde Guerre mondiale? Voilà la question autour de laquelle débattent Bertrand Badie et Jacques Sapir, qui sont nos invités ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
For the US. For the NATO enhanced presence here.
Je peux vous annoncer que les États-Unis seront le chef de file de la présence de l'OTAN ici en Pologne. Cela veut dire que les États-Unis vont déployer un bataillon d'un millier d'hommes pour servir aux côtés des soldats polonais.
Voilà, Obama qui était en déplacement en Pologne pour annoncer le renforcement des moyens de l'OTAN, c'était en juillet dernier. À l'issue donc de ce sommet de Varsovie, les pays de l'Alliance avaient annoncé plus de force sur le front est de l'Europe. Il y avait 4 bataillons supplémentaires, environ 4000 soldats. Puis on a annoncé évidemment cette nouvelle étape dans le déploiement du bouclier antimissile déployé par l'OTAN et qui avait provoqué l'ire de Poutine. Allez, Bertrand Badie, Jacques Sapir, on va commencer avec vous, Jacques Sapir, peut-être sur cet OTAN. Est-ce que l'OTAN a eu raison de renforcer ses moyens? Et de façon plus générale, à quoi sert l'OTAN aujourd'hui? On s'était beaucoup interrogé sur sa pertinence après justement la chute du mur en 1989. On a commencé avec cette date tout à l'heure. Est-ce que l'OTAN retrouve son utilité d'une certaine manière à la faveur de ce retour de la Russie, Jacques Sapir?
Alors, on ne peut pas discuter la question du renforcement de l'OTAN sans se poser au préalable la question de l'utilité de l'OTAN. Et il est très clair que l'OTAN n'a plus de raison d'être depuis 1992. Alors ça ne veut pas dire que une institution de sécurité n'a pas de raison d'être en Europe, ou qu'une institution de sécurité, une organisation de sécurité n'a pas de raison d'être au niveau international. Mais il est très clair qu'elle ne peut pas être l'OTAN et qu'elle ne peut même pas découler mécaniquement de l'OTAN. Pourquoi est-ce que l'OTAN a été maintenue? Disons-le. C'est uniquement la volonté des États-Unis. C'est uniquement la volonté des États-Unis de maintenir cet instrument en Europe qui a maintenu l'OTAN. Et là, je pense que nous...
Pourquoi? Parce qu'il fallait trouver une activité...
Oui, mais tout simplement parce que, simplement, l'OTAN leur assure le contrôle de fait de nombreux pays européens, voire même de l'Union européenne, à travers toute une série de leviers. Bon... La responsabilité importante, elle est chez les Français et secondairement chez les Allemands. C'était à nous de dire on ne veut plus de l'OTAN. On était d'une certaine manière sortis de l'organisation intégrée. Il ne fallait pas y revenir, ce qui a été fait sous Monsieur Nicolas Sarkozy. Donc là, il y a aussi une responsabilité importante. Mais le fait de maintenir l'OTAN a évidemment provoqué une réaction en retour de la Russie, qui voit par ailleurs que toute une série de pays qui lui sont à un moment donné hostiles sont appuyés par l'OTAN et qui voit que le discours, par exemple, sur le bouclier antimissile, techniquement, il ne tenait pas. Ce n'est pas, si vous voulez, si les États-Unis avaient réellement pris au sérieux les systèmes de missiles iraniens, eh bien, ils auraient dû négocier avec les Russes pour installer un radar en Azerbaïdjan, là où il y avait de nombreux radars russes, voire en Russie, parce que c'est une bien meilleure position pour surveiller justement tout ce qui peut venir d'Iran. Et le fait qu'ils ont toujours refusé cette proposition que les Russes leur ont faite à de multiples reprises, ça montrait bien qu'ils avaient autre chose en tête que la protection contre les missiles iraniens.
Bertrand Badi, je crois que vous êtes assez d'accord pour dire que...
Oui, je suis assez d'accord. Deux points qui vont exactement dans le même sens. Premier élément, pourquoi a-t-on créé l'OTAN en 1949 ? C'était explicitement un réflexe de défiance à l'égard de l'idée de sécurité collective que les Nations Unies devaient porter, comme auparavant la SDN devait en être l'élément fondateur. Et dans ce climat de début de guerre froide, Truman, les principaux dirigeants occidentaux, ont considéré qu'on ne pouvait plus faire confiance à la sécurité collective, donc qu'il fallait revenir à des alliances. Je dis revenir parce que c'est retrouver l'ambiance du 19e siècle où, effectivement, la triple entente se mettait en place face à la triplice et on voyait effectivement que c'était les alliances, c'est-à-dire les rapports de force, qui servaient l'équilibre, entre guillemets, la stabilité du monde. Lorsque le mur est tombé, le réflexe naturel aurait dû être de refaire confiance à l'idée de sécurité collective. Il y avait tous les ingrédients, il y avait une chance formidable de faire redémarrer la sécurité collective. On a choisi la structure d'alliance et pire que ça, l'élargissement de l'alliance à des pays limitrophes de la Russie. Pourquoi les États-Unis ont voulu rester, ont voulu maintenir l'OTAN ? Il y a une petite farce, si l'on peut dire, diplomatique, c'est que lorsque les États-Unis veulent jouer un rôle mondial, il faut qu'ils apparaissent comme puissance européenne. C'est en devenant puissance européenne que les États-Unis mondialisent leur diplomatie. On l'a vu lors de l'intervention en 1917 dans la Première Guerre mondiale, on l'a vu dans l'intervention de la Seconde Guerre mondiale. Le choix est restreint pour les États-Unis vu leur position géopolitique. Ou ils restent dans leur continent et ils sont dans une situation d'isolationnisme de fait, ou ils veulent jouer un rôle mondial et il faut avoir un pied en Europe qui était... et dont on croit à tort qu'il reste le centre du monde aujourd'hui. Donc, dissoudre l'OTAN, c'était repasser l'Atlantique, c'était revenir à un isolationnisme dont les États-Unis ne voulaient pas, parce qu'il y avait effectivement dans l'idée de George Bush père à l'époque et de son successeur Clinton que c'était l'occasion de construire cette unipolarité qui serait le moment américain. Et ça, nous le payons extrêmement cher. Pourquoi ? C'est pas une question d'aimer ou de pas aimer les États-Unis. C'est une question beaucoup plus profonde. C'est que dans un monde mondialisé, le leadership d'une seule puissance, aussi hyper soit-elle, n'est plus possible. Donc, nous sommes dans une situation de faux sens. Et finalement, moi, ce que je retiens de très positif de Barack Obama, c'est que sans avoir pu totalement l'expliciter, il a été le premier des présidents à l'avoir compris. D'où effectivement ce refus de l'interventionnisme. Et la diplomatie française, ça c'est sa grosse faute, n'a jamais rien compris au film. C'est-à-dire n'a pas compris d'abord ce décalage que je décrivais, et ensuite cette mutation de la diplomatie et de la politique étrangère américaine.
L'auditeur n'a pas l'image, mais Jacques Sapir fait oui de la tête. Deux questions avant de retrouver Anna Palbaum par téléphone. Une sur la question nucléaire et la première peut-être sur la sécurité européenne. Bertrand Badi, je poursuis un tout petit peu avec vous, parce que l'un des effets néfastes de l'OTAN, ça a quand même été, pour nous autres Européens, c'est que finalement, elle ne nous pousse pas vraiment à assurer seule notre sécurité. Or, on a un besoin, peut-être plus encore aujourd'hui, avec une Russie qui joue la déstabilisation de l'Europe, avec un monde où du côté des États-Unis, on sent aussi clairement une envie de retrait. Hein. Trump a clairement fait comprendre à ses alliés qu'ils allaient de plus en plus, alors on va voir s'il applique ce qu'il a dit, mais qu'il faudrait qu'ils comptent sur eux-mêmes pour assurer leur sécurité. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une difficulté immense à justement se lancer enfin dans cette Europe de la défense, Bertrand Badi. Est-ce que vous pensez que 2017 sera l'année où l'Europe va comprendre qu'elle a besoin d'avoir une défense commune? Une vraie défense commune, j'entends, Bertrand Badi.
Croyez au Père Noël, avec une semaine de décalage. Hein. Vous plaidez le faux probablement pour savoir le vrai. Mais, vous savez, cette question ne peut y répondre qu'en regardant froidement ce que sécurité internationale ou collective veut dire en 2017. Nous ne sommes plus au temps des deux étapes du Tour de France décrites par le général de Gaulle pour justifier la force de frappe française et ce besoin de défense auquel vous faisiez référence. On est face à un monde beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire beaucoup plus décentralisé, fragmenté, et nous ne sommes plus au temps où l'Europe était le champ de bataille du monde, même si restaient les Balkans, l'Ukraine aujourd'hui, peut-être encore quelques points chauds, mais l'essentiel du cratère du monde actuellement, il se situe dans une zone qui va de la Mauritanie à l'Afghanistan, hein, dit de manière extrêmement schématique, et qui redescend un peu jusqu'au bassin du Congo, au centre du continent africain. Ces conflits-là, je le disais tout à l'heure, n'ont rien à voir avec les guerres d'hier, c'est-à-dire celles que nous avons vécues dans notre chair, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il serait bien utile, pour répondre à votre question, de faire le détour, de savoir quelles sont les menaces. Moi, je vais vous dire ce qu'elles sont les menaces. Les menaces, c'est d'abord et fondamentalement l'insécurité humaine. C'est l'insécurité alimentaire, c'est l'insécurité sanitaire, c'est le fait que dans l'indifférence générale, 9 millions d'individus meurent de faim chaque année, créent au Sud ces nouveaux foyers de violence.
Ce sont les inégalités qui sont les moteurs finalement de l'insécurité.
Et l'échec de la construction de l'État.
Oui, donc non seulement vous n'y croyez pas, mais en plus vous nous dites que c'est peut-être pas aussi utile que ça. Et peut-être que là, Jacques Sapir va...
Qu'est-ce qui n'est pas aussi utile que ça ?
L'Europe de la défense. Pour faire face à ce qui est pour vous les vraies menaces.
À partir du moment, ce que je voudrais juste dire très très brièvement, c'est qu'à partir du moment où on est dans une logique d'association, il est normal que le paramètre de la défense entre dans cette logique de l'association. Simplement, le problème, c'est qu'on n'est plus seulement dans une logique de l'association, on est aussi dans une logique de la solidarité, et il faut comprendre ce que veut dire solidarité dans notre monde actuel. C'est pour ça que cette question, elle n'est pas préfabriquée, il n'y a pas de réponse toute faite.
Oui, vous vous remettez en cause les alliances militaires figées dans un monde éminemment fluide, dans un monde éminemment changeant.
Cotère sur une jambe de bois.
Oui. Jacques Sapir.
Alors, je pense, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Bertrand Badi au départ. L'Europe de la défense ne sera pas. Il faut en faire le constat. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y avoir des alliances entre des pays européens sur des questions de défense. Ça, oui. Mais je ne crois absolument pas à une Europe de la défense. Et je pense, j'irai même plus loin, je pense qu'elle n'est pas souhaitable. Compte tenu des divergences actuelles d'intérêts entre les pays de l'Union européenne, il n'est pas souhaitable que l'on ait une institution de sécurité et de défense au niveau de l'Union européenne. Il vaut bien mieux avoir, justement, des accords entre États. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point, bien sûr qu'il y a une dimension humaine. Il y a l'absence de services publics, il y a l'absence de l'État, qui est la première cause de la misère. Et il faut le répéter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, le marché va résoudre ». Non, c'est historiquement et matériellement toujours par l'État que se sont constitués les services publics. Et c'est donc de la construction de l'État dont il est question aujourd'hui dans le monde post-colonial. Ce monde qu'on appelle
d'où
le tiers monde.
D'où la nécessité à revenir vers plus de souveraineté, qui est pour vous le pilier et central
pour
de la démocratie.
Pour moi, c'est un point extrêmement important.
Mais c'est ce que vous expliquez, c'est ce que vous expliquez dans votre livre.
C'est un point extrêmement important.
Souveraineté, démocratie, laïcité.
Mais je précise que là aussi, il va falloir voir les conditions, je dirais, opérationnelles. Et on voit bien qu'il y a dans ce cratère que vous avez décrit, Bertrand Badi, qui va effectivement de l'Afrique à l'Afghanistan, il y a bien sûr des guerres de guérilla, mais il y a eu aussi des guerres très classiques. Les affrontements, en particulier dans la guerre civile du Congo, ont à un moment donné impliqué des armées constituées, certes pas avec les effectifs que l'on avait connus dans la Première ou dans la Seconde Guerre mondiale, mais avec des moyens qui étaient assez comparables. Et on voit aujourd'hui que dans l'affrontement entre les forces de la coalition et le versant irakien de Daesh, car il faut faire attention, le Daesh syrien n'est pas le Daesh irakien, on est en réalité en présence d'une armée et d'une armée moderne. Donc, cela veut dire qu'on ne peut pas faire l'impasse non plus sur une réflexion sur les appareils militaires et sur les capacités militaires.
Bertrand Badi, je vous laisse intervenir et puis ensuite on retrouvera un Applebaum.
Oui, c'est un débat, je crois, très très important. Les armées en Afrique, vous avez raison de souligner leur apparence, mais sont-elles des armées ? C'est-à-dire, c'est très intéressant de voir l'histoire de l'armée congolaise.
Certaines oui, d'autres non, c'est clair.
Et oui, et qui traduisent, alors si je prenais votre langage, qui traduit justement le défaut d'État. Bien, bien et sûr, donc, ces sûr. Armées ne sont pas des armées d'État et on se retrouve dans un cycle. Là où peut-être il y a un désaccord entre nous, c'est que ces États en Afrique, ils ont existé. Ils ont existé et ils se sont effondrés. Et il faut comprendre pourquoi ils se sont effondrés. Ils se sont effondrés pour des raisons externes, c'est-à-dire que leur clientélisation abusive leur a donné très vite le statut de proto-État, mais aussi pour des raisons internes, c'était leur inadaptation totale à la réalité sociale des pays considérés. Et tout à l'heure, quand je parlais de décolonisation ratée, je pensais aussi à cela. C'est-à-dire que l'Afrique, comme le Moyen-Orient, je ne dirais pas ont besoin d'État parce que l'expérience n'a pas été probante et a pu donner soit des monstres, c'est-à-dire des États extraordinairement autoritaires, soit des proto-États. Ce dont l'Afrique et le Moyen-Orient ont besoin, c'est de redécouvrir le politique, c'est-à-dire de réinventer un politique qui puisse véritablement résoudre les problèmes. Ce qui est très dangereux en Afrique, c'est que les problèmes africains ne sont jamais résolus. Regardez le Mali, on se flatte de l'intervention française au Mali, mais qu'est-ce qui a été résolu de la question malienne depuis cette intervention de Jean-Pierre?
Pas grand-chose en tout cas, rien, pas tout, clairement.
Rien.
On parlera justement de l'Afrique, ça sera notre sujet de jeudi dans cette série consacrée au nouvel ordre international. Je vous propose d'entendre un autre regard, celui d'une Américaine, Dana Applebaum. Elle est journaliste, elle est écrivaine, elle est éditorialiste au Washington Post. Elle avait reçu le prix Pulitzer en 2004. Elle s'était installée à Varsovie à la fin des années 80 pour y rester plusieurs années, couvrant les changements politiques et sociaux de cette Europe centrale avant et après la chute du mur qu'on évoquait tout à l'heure. Au printemps dernier, elle avait écrit une tribune dans le Washington Post dans laquelle elle écrivait, je la cite, « Nous sommes à deux ou trois mauvaises élections de la fin de l'OTAN, de la fin de l'UE et peut-être même de la fin de l'ordre libéral du monde. » Depuis, le Brexit est passé par là, l'élection de Donald Trump également. Alors, où va l'Europe? Et en particulier cette Europe centrale où on a vu émerger ces démocraties dites illibérales dans la Hongrie de Orban d'abord, mais aussi dans d'autres pays. On pense à la Pologne avec ses dernières élections qui ont vu la victoire du PiS, le parti ultra-conservateur Droit et Justice. Quels effets sont à craindre du Brexit, notamment qui avait sidéré l'Union le 23 juin dernier? Elle est au micro de Samuel Bernard, Anna Applebaum.
The world that's disappearing is called, really, for lack of a better expression, the liberal international order.
Le monde qui est en train de disparaître s'appelle, faute de mieux, l'ordre international libéral. Mais par libéral, j'entends un libéralisme au niveau des échanges, au niveau de la libre circulation des personnes. C'est un ordre mondial qui repose en général sur des règles et sur l'état de droit, ou encore, par exemple, sur l'acceptation des frontières en Europe. C'est également un monde qui repose sur l'idée que les États-Unis et l'Europe sont des partenaires et agissent de concert au nom de la démocratie et au nom des règles de ce monde dans un contexte commercial et politique réglementé. Et c'est ce monde qui pourrait bien disparaître, effectivement.
On voit en Europe centrale des régimes qui basculent vers cette démocratie illibérale. On pense à Viktor Orban en Hongrie, le gouvernement de Beata Szydlo en Pologne. De quoi est-ce que ce glissement est le signe selon vous?
Vous savez, la démocratie illibérale est liée au développement de partis politiques qui ne respectent pas les règles de la démocratie, qui ne respectent pas cet ordre libéral dont je parlais, et qui ne respectent pas l'état de droit. Des partis qui tentent de modifier unilatéralement les constitutions et de changer les systèmes politiques en leur propre faveur. L'exemple de la Hongrie a déjà inspiré Kaczynski en Pologne, et j'imagine bien qu'il en inspire d'autres. Je vois bien Marine Le Pen s'en inspirer en France, et je vois bien aussi Donald Trump s'en inspirer. Il règne un sentiment de frustration vis-à-vis de la démocratie et vis-à-vis des divisions qu'elle suscite et de la lenteur à laquelle les problèmes sont résolus. Un point particulièrement ulcérant aujourd'hui en Europe, alors que tout le reste est tranché très rapidement. Il y a donc un regain d'intérêt. En soi, ce phénomène, qui est au passage fortement encouragé par la Russie de nombreuses manières différentes, parce que c'est la voie qu'elle a choisie, ce phénomène, disais-je, menace, je pense, tous les pays européens.
Avec le Brexit, la crise des réfugiés, l'Europe fait face à de nombreuses crises. Quel est le plus grand péril pour l'Europe, selon vous? Son incapacité à faire face à ces situations et s'accorder sur des décisions collectives ou des éléments extérieurs comme, par exemple, l'action de déstabilisation de Moscou, dont vous expliquez les tenants dans un de vos articles?
So I think the real crisis for Europe is that, well, first of all, that Europe spent so many decades.
À mon sens, la vraie crise pour l'Europe vient avant tout du fait que l'Europe a passé tellement de décennies à travailler sur son économie intérieure et sur une approche de l'Union européenne complètement axée sur la gestion d'accords internes qu'elle n'a pas réussi à se positionner comme un acteur mondial. L'Union européenne a créé des institutions de politique étrangère, mais sans vraiment jamais les soutenir. Et elle a donc perdu la capacité de détecter les menaces extérieures. L'Union européenne devrait par exemple être en mesure de protéger ses frontières. Il devrait y avoir un accord sur les frontières européennes. Bon, il y en a un, c'est vrai, mais il ne fonctionne tout simplement pas, il est trop éthéré. L'Union européenne devrait prendre conscience. Il devrait y avoir une prise de conscience généralisée en quelque sorte de la menace que représente la Russie. Pas seulement à cause des agressions militaires russes auxquelles nous avons assisté et qui pourraient bien s'intensifier, mais aussi à cause des opérations de désinformation et de corruption de la part de la Russie qui tente réellement de changer et d'influencer les démocraties européennes dans son sens afin qu'elles favorisent son capitalisme de connivence.
Vous évoquez également la possibilité selon laquelle Moscou essaierait d'influencer les résultats des prochaines élections fédérales allemandes en automne 2017. C'est une menace qui est prise au sérieux par les autorités allemandes?
Oh, absolutely. And this is openly discussed now in Germany. It's understood by everybody in German politics.
Ça ne fait aucun doute. Et c'est un point ouvertement abordé aujourd'hui en Allemagne et complètement assimilé par toute la classe politique allemande. La Russie est particulièrement résolue à peser sur le résultat des élections en Occident. Et elle a compris avant tout le monde, je pense, à quel point les réseaux sociaux et la désinformation pouvaient lui ouvrir les portes. La Russie a donc recours au trolling. Elle utilise de faux actus, de faux sites web, de faux think tanks pour infiltrer les pays démocratiques avec des histoires qui la présentent sous un jour favorable. C'est ce qu'elle a réussi à faire en Ukraine. Elle l'a également fait en Pologne et en République tchèque. J'ai longtemps pensé que c'était un problème limité à l'Europe centrale, région où les Russes peuvent acheter leur influence parce qu'ils y ont d'anciens amis, bien sûr. Mais après les élections américaines, on voit bien que c'est désormais possible n'importe où. La Russie a lancé des opérations tous azimuts dans quasiment tous les pays européens. Manipulation d'information, financement des partis politiques. En France, elle finance Marine Le Pen, en tout cas elle l'a fait jusqu'à présent. En Hongrie, elle finance Jobbik. Elle offre un soutien moral et financier au Parti de la Liberté en Autriche, à Geert Wilders, probablement même à Nigel Farage, en tout cas à des groupes d'extrême droite dans toute l'Europe.
And they also use corruption. They use their companies.
Et elle a également recours à la corruption. Elle utilise ses sociétés et ses contacts commerciaux pour tenter de peser sur la politique dans tous les pays européens. C'est ce qui s'est passé en Italie. C'est ce qu'elle a fait de façon déclarée en Hongrie par le biais de Rosatom, son agence de l'énergie atomique. Son objectif est double, diviser l'Europe et saper l'Union européenne qui lui pose problème, car elle fixe des règles qui empêchent les sociétés russes d'exercer un monopole ou de pratiquer la corruption. L'objectif est aussi de saper la démocratie pour des raisons internes. Le gouvernement russe ne veut pas que la démocratie européenne fasse figure d'exemple ou représente quelque chose digne d'admiration aux yeux des Russes. Il ne veut pas que le peuple russe ait envie d'avoir ce qu'a l'Europe. Il veut que l'Europe ait l'air faible et instable, au bord de la désintégration. Et je pense que la Russie a plutôt bien réussi. Elle n'invente pas les problèmes que rencontre l'Europe, mais elle jette de l'huile sur le feu.
L'autre péril pour l'Union européenne n'est-il pas également l'élection de Donald Trump, qui a beaucoup pointé du doigt la charge budgétaire de l'aide qu'allouent les États-Unis à l'Union européenne à travers l'OTAN? Est-ce que selon vous, l'Europe ne pourra plus compter sur les États-Unis pour l'aider à garantir sa sécurité?
So I wouldn't go that far yet. Trump has expressed doubts about NATO and actually has
Je n'irai pas jusque-là, du moins pas encore. Trump exprime des doutes sur l'OTAN. Mais il le fait depuis 20 ans, donc de ce côté-là, rien de nouveau. Mais c'est le type de doute qu'il exprime aujourd'hui qui devrait vraiment inquiéter les Européens. Parce que ce n'est plus simplement que l'Europe ne contribue pas assez, ce qui soit dit en passant est vrai. C'est aussi et surtout qu'il n'en voit plus l'utilité. Il ne ressent aucune affinité entre les États-Unis et les démocraties européennes. La démocratie en tant qu'idée et idéal, ne l'intéresse pas. Il pense pouvoir national. Il pense accord modifiable à volonté. Il ne pense pas alliance à long terme. Donc oui, je pense que nous sommes arrivés à un moment où les Européens doivent comprendre que c'est là la vraie urgence. Le moment est venu pour l'Europe de commencer à réfléchir sérieusement à la manière d'assurer sa propre sécurité. Que ce soit par l'intermédiaire de l'Union européenne ou par le biais d'une autre institution ou grâce à un groupe de pays clés qui s'y réuniraient pour commencer à envisager le monde sans le bouclier nucléaire américain et sans la garantie qu'offrent les États-Unis en matière de sécurité. Le moment est vraiment venu. C'est d'ailleurs presque trop tard. C'est maintenant ou jamais.
Voilà, Anne Applebaum, c'est maintenant ou jamais, qui est journaliste, écrivaine, éditorialiste Washington Post, prix Pulitzer 2004, et puis membre du think tank néoconservateur, je le précise, American Enterprise Institute. Peut-être réaction, Bertrand Badi et Jacques Sapir, pour clore cette émission en guise peut-être de conclusion. Bertrand Badi.
On a beaucoup parlé du passé, moi je voudrais insister sur un élément du présent qui va être déterminant. C'est-à-dire que enfin, dans notre monde, et singulièrement en Europe, on comprenne ce que mondialisation veut dire. C'est-à-dire qu'on comprenne que l'on n'est plus au temps du Congrès de Vienne, qu'on est dans un monde qui est un monde unique, qui est un monde inclusif, et qu'il faut savoir adapter nos politiques publiques à cette réalité nouvelle. Et vous avez un défi majeur qui entre tout à fait dans ce sillage. Et là, je vois que la tétanie est complète, c'est celui des migrations. Mmh. On est passé dans un monde où le migrant est l'être normal et le sédentaire l'être anormal. Accepter on est dans un monde où la migration va aller en se développant et où par conséquent, il est grand temps non pas de nous ruiner dans des politiques répressives qui n'ont absolument rien donné, mais d'entrer enfin dans une gouvernance globale de la migration.
C'est évidemment en prenant des accords avec vous, Jacques Sapir. Hein.
Oui, la question des migrants est une question qui est humanitairement une question extrêmement importante, mais démographiquement, c'est une question qui est très minuscule. En réalité, on voit très bien que... Mais même si elle grimpe, même si elle doublait, même si elle triplait, elle resterait minuscule. Et moi, j'ai vu, si vous voulez, au niveau de l'Afrique du Sud, comment ce pays a été largement déstabilisé par un flux de migrants en provenance de la Rhodésie, du Zimbabwe. Bon, et je pense que là, effectivement...
Parce qu'on ne sait pas faire.
Non, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut des États, et il faut que les États prennent leurs responsabilités sur cette question.
Voilà, on finit sur un point de désaccord. Merci beaucoup en tout cas infiniment aux messieurs d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir ouvert cette série vers un nouvel ordre international. Il faudra vous réinviter parce qu'il y avait encore beaucoup de points sur lesquels j'aurais voulu vous entendre et l'un et l'autre. Et l'autre, pardon, mais en tout cas c'était un plaisir de vous entendre.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Et un grand plaisir d'entendre Brice Couturier. Bonne année Brice.
Bonne année Florian.
Et alors cette semaine, vous allez nous parler de l'état de l'Union, en l'occurrence de l'Union européenne, qui apparaît à beaucoup d'observateurs comme menacée d'implosion. On en parlait, pour quelle raison?
Parce que j'ai lu un article très touchant de Timothy Garton Ash dans la New York Review of Books de ce mois-ci, qui va me servir de fil conducteur pour la semaine. Garton Ash est devenu l'un des plus fameux intellectuels britanniques à l'époque assez lointaine où j'assistais à son séminaire à Oxford au début des années 90. C'était en effet l'intellectuel d'Europe occidentale qui connaissait le mieux l'Europe centrale, si l'on accepte évidemment les dissidents réfugiés à l'ouest, tels que François Feiteux ou Czesław Miłosz. La Mittel Europa, ce morceau d'Occident kidnappé, comme disait Kundera, longtemps coupé de nous par le rideau de fer, venait en effet en 89 de retrouver l'indépendance nationale et la liberté à la faveur de la crise intervenue dans l'Empire soviétique. Les spécialistes étaient rares, plus rares encore, ceux qui avaient, comme Garton Ash, misé sur les dissidents. Garton Ash avait vécu sur place longtemps, en Allemagne de l'Est d'abord, puis en Pologne communiste ensuite, mais il était aussi un assez bon spécialiste de la Tchécoslovaquie. Quoique espionné en permanence par la Stasi, il a eu connaissance de son dossier, comme il l'a raconté dans son livre The File, il était parvenu à nouer des liens personnels étroits avec les grandes figures de la dissidence. D'ailleurs, en vieillissant, cet intellectuel britannique à barbe rousse ressemble de plus en plus à un dissident d'Europe centrale des années 80. Son air préoccupé et sa démarche hésitante rappellent Bronisław Geremek, le grand historien polonais qui a négocié l'adhésion de son pays à l'Union européenne. Il y a ainsi des personnalités que leur sujet d'étude imprègne jusqu'au physique. Alors imaginons, écrit Garton Ash dans la New York Review of Books de ce mois-ci, que j'ai été cryogénisé décédée en janvier 2005 et que je sois sorti de cette hibernation à la fin de l'année 2016 maintenant. Eh bien, le choc que je ressentirais à constater les changements intervenus en Europe en une dizaine d'années me tuerait sur le champ. À quoi bon la cryogénisation ?
Mais alors, en quoi les changements intervenus justement en Europe pourraient-ils provoquer un tel stress chez votre spécialiste britannique de la Mittel Europa ?
Parce qu'il y a, je cite Garton Ash, crise et désintégration de tous côtés. La Grèce, si fière de son adhésion précoce à l'Union européenne en 1981, est plongée, comme on sait, dans la misère. La zone euro tout entière dysfonctionne, les jeunes diplômés espagnols sont devenus serveurs à Londres ou à Berlin, les bacs plus 5 ou 6 portugais émigrent au Brésil ou en Angola. En un mot, tous les pays du Sud sont affectés par un chômage qui frappe prioritairement et de manière massive leur jeunesse. L'UE n'a toujours pas de constitution ratifiée par ses peuples. Un ancien héros du libéralisme hongrois, Viktor Orban, est devenu un chef d'État archéo-conservateur qui prône à présent la démocratie illibérale. Les contrôles aux frontières nationales au sein de l'espace Schengen ont été provisoirement rétablis, mais personne ne peut dire combien de temps va durer ce provisoire. Et des vagues de migrants arrivent par centaines de milliers en provenance d'endroits en guerre ou en crise, où l'UE ne joue plus aucun rôle. Egerton Ash aurait pu évoquer le sommet russo-irano-turc qui a eu lieu la semaine dernière. Ces trois puissances prétendent régler entre elles la question syrienne sans rien demander aux États-Unis et encore moins à l'Europe. Les conférences de Vienne menées sous l'égide des Européens n'ont abouti à rien. La révolution orange en Ukraine, menée au nom des valeurs européennes et en vue de l'adhésion à l'Union européenne, a valu à ce pays l'invasion par la Russie et l'annexion d'une grande partie de son territoire. Les sanctions économiques décidées par l'UE n'ont pas fait reculer Poutine d'un pouce. Enfin, la Grande-Bretagne, la deuxième puissance économique de l'UE après l'Allemagne et probablement sa première puissance militaire, a décidé de rompre les amarres et de faire bande à part. Ce glissement de l'ombre à la lumière, écrit Garton Ash, intéressera les historiens de l'avenir. Et historien lui-même, notre homme de s'intéresser alors aux histoires de l'Europe aujourd'hui disponibles. Les grandes fresques publiées durant la période 1989-2008 s'achevaient toutes, constate-t-il, sur des perspectives grandioses. À cette époque, en effet, l'intégration européenne apparaissait comme un mouvement irrésistible et exerçait sur ses voisins une attraction considérable. On se pressait à la porte du club européen. L'Europe semblait avoir inventé une formule politique garantissant à la fois la paix et la sécurité. Elle exerçait même sur son voisinage une influence pacificatrice. La perspective de devenir un jour membre du club apaisait les antagonismes. L'Europe connaissait une croissance suffisamment solide pour garantir le maintien d'un système de protection sociale unique au monde. L'Union européenne était gérée à partir d'un mode de décision politique collégiale ultra-démocratique qui se révélait efficace. Enfin, elle rivalisait avec les seuls États-Unis dans le domaine de la recherche et des technologies émergentes. C'était l'époque où l'on nous vendait la mondialisation heureuse. Les Chinois pouvaient bien rester l'atelier du monde pourvu que nous, nous conservions l'innovation, la conception, le marketing et la finance. Eh bien, ces théories étaient liées à la fameuse fin de l'histoire de Francis Fukuyama, théorie selon laquelle l'humanité tout entière, à la suite de l'Occident, allait marcher vers l'unification par la conversion à la démocratie et au doux commerce. Comme on sait, ces illusions ont fait long feu.
Merci beaucoup Brice Couturier pour votre chronique consacrée à l'Union européenne, dont on parlera nous justement demain. Brice, on vous retrouvera bien sûr demain à 11h52, 53 comme chaque jour sur France Culture.